Sud Radio, 6h-10h, le grand matin été.
Alors le coup de main du jour, parce que vous le savez, cet été sur Sud Radio, nous avons décidé de mettre en avant ces associations qui font bouger les choses et la France. On parle ce matin de ruralité. Comment aider à la création des écoles, sujet hautement sensible, mais aussi comment donner confiance et fierté à ces enfants des milieux, du milieu rural. C'est la mission de la Fondation Espérance Ruralité et on est en ligne avec son cofondateur Jean-Baptiste Noyac. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment s'est née cette idée de créer une fondation afin de créer des écoles en milieu rural et d'aider aussi à la confiance en soi de ces jeunes qui vivent en zone rurale et qui ont une espèce de complexe d'infériorité, parfois un peu stupide, mais ça existe.
Oui, alors, écoutez, moi, je me suis engagé dans ce projet aux côtés d'Hervé Catala, donc le président de la fondation. Après avoir développé des écoles en banlieue pendant quelques années, et puis j'ai pris conscience en fait qu'il y avait une jeunesse dans les territoires de la France périphérique qui était beaucoup moins médiatisée, mais qui avait des difficultés non moins grandes, et notamment pour ce qui concerne à la fois le décrochage scolaire et puis une forme d'autodévalorisation qui est liée à un certain nombre de paramètres, et notamment le fait que chez beaucoup de ces enfants des ruralités, eh bien, il y a une forme de mal-être culturel aujourd'hui, puisque ces enfants, aujourd'hui, quand ils allument la télé, les réseaux sociaux, les médias, les clips et tout ça, tous les modèles culturels qu'ils voient, ils viennent des métropoles. Donc eux, ils ont l'impression de ne pas exister.
Et pourtant, vous signalez et vous soulignez et vous observez, Jean-Baptiste, une espèce de similitude entre ces enfants des quartiers et les enfants qui vivent en milieu rural. Ils ont les mêmes difficultés, en fait.
En fait, il y a des similitudes et il y a des différences, mais celle-ci, notamment, en est une importante, je pense, de différence. C'est-à-dire qu'il y a cette forme de comment dire, d'absence du paysage culturel. C'est une caractéristique particulière des enfants de ce territoire.
Qu'est-ce qui vous a poussé donc à créer ces écoles, un modèle classique en fait, parce qu'elles fonctionnent quoi différemment? La première école a été créée il y a 2 ans à la Fère, commune de 3000 habitants dans l'Aisne en Picardie. Quel est le modèle en fait?
Alors le modèle, ce sont des écoles qui reposent sur une association qui a un modèle économique un peu particulier puisque en fait elles vivent beaucoup sur des dons en fait d'entreprises et de fondations. Donc les parents payent une participe aux frais de scolarité, mais ça reste modique puisque ce sont des frais de scolarité qui ne servent pas plus de 50 euros par élève et par mois.
Vous avez ouvert votre première école donc à la Fère il y a 2 ans. Est-ce que vous avez eu un retour? Est-ce que vous avez suivi les élèves donc qui ont été scolarisés dans cette école 2 ans après? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ça se passe?
Alors pour l'instant, les premiers ils sont arrivés en 5e, donc là ils vont passer le brevet l'année prochaine. Mais donc on n'a pas encore vraiment de visibilité sur ce qu'ils deviennent après l'école. En revanche, on voit déjà ce qu'ils deviennent dans l'école et on voit des évolutions qui sont très significatives. Parce qu'en fait, pour rentrer un petit peu dans le détail de la pédagogie, l'objectif c'est donc de transmettre les fondamentaux et de rendre confiance en nos enfants. Donc on a un gros travail sur la maîtrise des savoirs fondamentaux avec un focus sur les matières fondamentales avec des petits effectifs, pas plus de 15 élèves par classe. Et puis on va avoir aussi un rôle très important des professeurs qui sont à la fois professeurs et éducateurs. Mmh. Et donc ça va créer un lien très fort avec les enfants, restaurer une confiance dans l'adulte. Et c'est ce qui permet justement d'avoir des évolutions tant sur le plan scolaire que aussi beaucoup sur le plan de la confiance en soi et sur le plan du développement personnel de l'enfant. Donc ces évolutions, on les voit assez très nettement en fait des enfants qui arrivent et qui s'épanouissent.
Oui. Comment fait-on pour donner confiance à un élève dans l'institution scolaire? On rappelle que vous avez créé ce premier collège pilote privé hors contrat en milieu rural. Mais comment vous faites techniquement pour leur donner confiance vis-à-vis de ceux qui vivent dans les pôles urbains, par exemple?
Alors il y a plein de d'éléments, mais le premier déjà, c'est d'abord de créer une école qui soit une école à taille humaine, une école qui soit une maison habitée, qui soit un lieu qui soit rassurant pour les enfants. Et donc on a pour ça des professeurs qui sont à la fois professeurs et éducateurs, donc qui sont qui sont présents toute la journée à l'école et qui vont pas seulement donner des cours, mais qui vont aussi participer au sport avec les élèves, déjeuner avec eux, jouer avec eux à la récré, faire tout un tas d'activités et qui vont du coup créer une relation. Et donc cette relation, elle va créer un sentiment d'appartenance fort à l'école qui va être renforcé par d'autres facteurs, par exemple l'uniforme. Tous les élèves, on a tous
une uniforme. Tenue, ouais. Ouais. Voilà.
Et ça, c'est aussi un point important, c'est que en fait, on appartient tous à cette école et donc on est tous on est tous responsables du fait que ça se passe bien. Les élèves rendent des services aussi, ils appartiennent tous à des équipes. Donc il y a 5 équipes d'élèves qui sont des équipes interâge un peu inspirées du scoutisme et dans lesquelles eh bien ils vont pouvoir s'investir au service de l'école. Et donc rendre des services, ça va être le ménage, la vaisselle, ranger la cour. Et tout ça, ça fait que cette école, ça devient la leur et ça donne confiance en soi, en fait, de se sentir une responsabilité vis-à-vis du groupe, d'avoir sa place, d'avoir des choses à faire et d'être valorisé pour ça, puisqu'on utilise toutes les occasions qu'on peut avoir pour valoriser les enfants. Et donc, on a des assemblées le matin et en fin de journée où on dit ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais on essaie surtout de dire ce qui n'a pas été de manière collective et de dire ce qui a été de manière individuelle pour vraiment dire voilà, merci Dylan pour ce que vous avez réalisé ce matin dans les services. Et ça donne confiance en eux aux enfants petit à petit.
Alors Jean-Baptiste Moyac, vous nous le disiez, il y a 15 élèves par classe. C'est peu, c'est pas beaucoup. Comment vous choisissez les élèves? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire et à la fin, comment vous les sélectionnez?
Alors tout le monde peut s'inscrire. Il y a un petit test de niveau pour vérifier que les enfants n'ont pas des difficultés, des handicaps qu'on n'est pas en mesure de traiter, qui sont liés à des difficultés intellectuelles et donc mentales quoi, mais en dehors de ça on a vraiment la possibilité d'accueillir tous les enfants et on n'a pas de sélection sur le niveau scolaire. C'est juste qu'en fait s'il y a des enfants qui ont besoin d'un AVS, bien ça nous on n'est pas en mesure de les prendre chez nous, parce qu'aujourd'hui vous savez peut-être que dans les écoles hors contrat les enfants n'ont pas le droit aux AVS comme dans les écoles publiques. Donc c'est aussi une rupture d'égalité qui est un peu préoccupante, parce que du coup on peut pas accueillir tous ces enfants-là, mais en dehors de ces profils-là on peut accueillir tous les enfants. Et donc on prend les enfants quel que soit leur niveau scolaire et leur background, je dirais, disciplinaire quoi.
Alors aujourd'hui vous avez ouvert donc ce premier collège pilote, Jean-Baptiste Noyac, cofondateur de la Fondation Espérance Ruralité. Est-ce que vous comptez ouvrir d'autres? Quel est votre plan, on va dire, d'ouverture d'écoles en milieu rural ou de collèges, d'établissements scolaires?
Alors oui, on compte en ouvrir d'autres. L'idée, c'est de se développer par plaque régionale. Donc en fait, c'est de mettre des écoles en réseau autour d'un pôle dans un département. Donc là, par exemple, on va essayer d'ouvrir une deuxième école ou l'année prochaine ou l'année suivante en Thiérache. Donc c'est au nord-est de l'Aisne et l'idée c'est de créer ce pôle autour de la ville de Saint-Quentin pour pouvoir mettre des professeurs en réseau, mutualiser un certain nombre de professeurs sur les écoles, mutualiser des bénévoles aussi qui animent beaucoup la vie de ces écoles. Et puis aussi mutualiser, enfin créer aussi un pôle de donateurs locaux
pour faire tourner l'école, parce qu'on rappelle elles sont privées et hors contrat, donc vous avez besoin de soutien en tous les cas des donateurs et des sponsors d'entreprises pour faire tourner cette école. J'imagine que tout est expliqué sur le site Fondation Espérance Ruralité.
Oui, tout à fait.
Merci en tous les cas, Jean-Baptiste Noyac. Vous êtes le cofondateur de la Fondation Espérance Ruralité et vous étiez notre invité ce matin dans le coup de main du jour, le rendez-vous des associations tout au long de cet été sur Sud Radio.
Oui, Christine, et si vous souhaitez d'ailleurs soutenir cette fondation, la Fondation Espérance Ruralité, sachez que la fondation participera à la Nuit du Bien Commun. C'est le 19 novembre prochain au Théâtre Mogador à Paris. Chaque année, c'est le Bien Commun, c'est une soirée de levée de fonds qui permet de mettre en avant et de soutenir des projets comme donc Fondation Espérance Ruralité.
Merci Philippe, et on va retrouver bien sûr cette association dès demain sur Sud Radio.